se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 à 1.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, dans CO2 de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui essaie également de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Élise, Christophe et Florent Layani à la technique, et assisté de Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice Lègle cette semaine qui réalise l'émission. Alors, des petites actualités comme ça. Oui, pile je gagne, face tu perds. Un montage financier comme on les aime et que l'on retrouve par exemple dans le cas de l'autoroute Pau-Langon. Eh oui, de deux choses l'une. Soit le trafic routier est au rendez-vous et le concessionnaire empoche les bénéfices. Soit c'est un fiasco et on demandera aux contribuables de mettre la main à la poche. Eh oui, c'est comme ça dans le contrat. Bon, je vous passe les détails. Hein, vison d'Europe, écrevisse à pattes blanches et autres dommages collatéraux de l'affaire qui a été voulue par tous les barons locaux. Enrobé de compensation et d'autoroutes vertes. Mardi dernier, donc, des associations de la région ont compté les voitures et les camions sur l'A65. Bilan de l'opération, 4000 véhicules en moyenne, quand on a promis effectivement 7600. Alors, une prévision basée sur l'hypothèse tout à fait raisonnable nous affirmait à l'époque un pétrole à $30 le baril. Rappelons qu'il faut quand même entre 10 à 20 000 véhicules par jour pour rentabiliser une autoroute. Alors oui, chers auditeurs bordelais, faites un geste pour nos amis banquiers. Ce week-end, grillez quelques litres d'essence en direction des Pyrénées en prenant cette autoroute à 65 qui est hors de prix. Sécheresse dure en France, restriction d'eau dans 42 départements, principe des vases communicants ou non. Aux États-Unis, on a connu ces temps-ci des pluies records. Le tout conjugué à la fonte d'un épais manteau de neige et voici le Mississippi qui déborde. Des crues comme on n'en avait pas vu depuis longtemps et qui menacent ces jours-ci la Louisiane. Et oui, encore elle, ouragan Katrina, marée noire de BP en 2010. La région est au confluent de toutes les catastrophes. Et pour épargner la Nouvelle-Orléans, eh bien, le corps des ingénieurs de l'armée américaine a choisi de déverser une partie des eaux du Mississippi dans le bassin de l'Atchafalaya au risque d'inonder des milliers d'hectares de terres cultivées et d'en charrier les pesticides. Sans oublier les habitants de la région, ours, cerfs, alligators et autres sangliers qui ne sont pas tous forcément les mieux équipés pour les records de natation. Et enfin, un grenelle du nourrisson d'ici la fin de l'année. C'est une exclusivité, CO2 de mon amour. Et oui, une annonce qui n'est pas encore confirmée par l'Elysée, mais qui colle bien avec le calendrier, puisque nous fêterons ces jours-ci la semaine internationale de la couche lavable. Oui, ça existe. Imperméabilisé, coloré, équipé de fermetures scratch et conçu pour s'adapter à tous les popotins, la couche lavable n'a rien à envier aux 4 milliards de couches jetables consommées en France tous les ans et aux presque 2 millions de tonnes de déchets qui s'en suivent. Alors avis à la future première maman, nous comptons sur vous pour montrer l'exemple et pour éduquer dès la tétine le bébé à l'environnement, un biberon sans biphénol bien sûr. Alors, au menu de cette édition de CO2 Mon Amour, eh bien d'abord, nous terminerons par une actualité de l'environnement. Nous vous avons concocté avec Nathalie Fontraine une petite mayonnaise avec du gaz de schiste. Ah bah oui, toujours, on ne s'en lasse pas. De sécheresse et de fête de la nature. Je vais vous emmener donc dans le Cantal, au Grand Air, pas loin du Puy-Marie, avec un homme qui s'appelle Stéphane Serre. Et nous débutons l'émission avec l'homme que vous connaissez. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons parler d'une plante qui est extrêmement allergène, qui s'appelle l'ambroisie.
Oui, on en a déjà parlé de cette ambroisie, elle fait beaucoup de soucis. Alors, c'est une plante qui n'est pas présente initialement dans la flore européenne. Elle est venue d'Amérique du Nord. On l'a repérée pour la première fois dans le département de l'Allier en 1863. Elle est très envahissante et c'est le prototype de ce qu'on peut appeler une mauvaise herbe parce qu'elle est mauvaise surtout pour nous, dans la mesure où elle est très allergisante et qu'elle déclenche tous les mécanismes lorsque elle émet son pollen. Alors c'est les rhinites, les conjonctivites, les trachéites, l'asthme, l'eczéma, enfin tout le cortège des pathologies liées aux allergies.
Et si on habite la région Rhône-Alpes, on est particulièrement gâté.
Oui, parce qu'elle est très abondante dans cette région. Alors, on estime que en période de pollinisation, c'est-à-dire septembre surtout, elle touche 6 à 12% de la population qui font des allergies. D'accord. Et la Sécu de Lyon constate qu'il y a en gros 150 000 personnes qui se font soigner à ce moment-là, donc elles coûtent cher à la Sécu aussi. Mmh. Voilà, ça c'est le profil de cette plante. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Il faut l'éliminer.
Voilà, il faut l'éliminer. Mais pour l'éliminer, si on veut l'arracher, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut d'abord la reconnaître. Ouais. Alors à quoi elle ressemble ? Pour l'effort en botanique, on dira qu'elle ressemble à une armoise. Mmh. Ça ressemble tout à fait à une armoise, sauf que l'armoise a les feuilles blanches en dessous et l'ambroisie est toute verte. Elle est très verte, c'est une plante très très verte. Alors vous allez me dire, mais la plupart des gens ne connaissent pas l'armoise. Donc il faut la reconnaître. Et je sais qu'on l'a présentée souvent déjà dans des émissions télévisées, mais je ne suis pas sûr que cela suffit. Ce qu'il faut savoir, c'est où on la trouve. Alors on la trouve surtout parce que c'est une plante pionnière dans des terrains qui ont été bousculés, renversés, où il y a des gros engins jaunes qui ont circulé, sur les grands travaux de génie civil, et elle pousse très vite.
Donc dès que la terre a été remuée, brassée,
voilà,
elle arrive.
Tout à fait, parce qu'elle a des graines qui sont en état de latence, alors tout arrive, les graines ont un pouvoir germinatif très long. Alors, on n'est pas tout à fait sûr des chiffres, les uns disent 10 ans, les autres disent 40 ans, mais en tout cas plutôt plus que la plupart des graines, donc elle peut rester longtemps à l'état latent avant de redémarrer. Et son pollen est très joli, ce pollen allergisant. Ça ressemble tout à fait à un gentil petit oursin,
oui,
vu au microscope électronique naturellement.
Bien sûr, bien sûr.
Alors on va essayer de s'en débarrasser. Alors il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est qu'il ne faut pas laisser les terrains bouleversés nus. Il faut les recouvrir, même à la limite avec du paillage, mais en semant des graines. Par exemple, lorsqu'on laisse un morceau de route abandonné parce qu'on a fait un trajet un peu différent, tout de suite autour du macadam qui commence à se fissurer, hop, là, l'ambroisie est là. Donc il ne faut pas laisser les terrains découverts.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer de la concurrence.
Il faut, voilà, tout à fait. Il faut créer de la concurrence et par rapport à la concurrence, elle n'est pas très compétitive. Ah. C'est une plante très invasive, mais s'il y a beaucoup de monde, elle ne s'installe pas.
Elle n'est pas adaptée au marché.
Non, elle n'est pas adaptée au marché, c'est ça. Alors, il y a les moyens curatifs, c'est évidemment de l'éliminer en fauchant, et surtout le faire avant l'émission de pollen. Après, c'est trop tard. En fauchant, mais là, il y a un autre problème, c'est qu'elle ne forme pas des populations très, très denses. Elle est plutôt dispersée. Donc, la meilleure méthode, c'est de l'arracher à la main. Et alors, qui va arracher ? Alors, il y a d'abord l'hypothèse des collectivités territoriales. Mais on ne peut pas non plus imaginer que dans les petits villages, il y a le garde champêtre qui devient l'arracheur officiel de l'ambroisie. Bon, puis il n'y a peut-être plus de garde champêtre non plus. C'est une responsabilité qui devrait peser sur les entreprises qui font les grands travaux de génie civil. C'est dans le cadre de leur activité d'entrepreneur que je crois devrait se faire un effort particulier. Alors il y a des guides qui ont été élaborés pour eux, pour qu'ils fassent ce travail. Alors il y a aussi les enfants des écoles qui font parfois du ramassage. Mais là on se heurte vraiment à une difficulté, j'y reviens, c'est qu'il faut la reconnaître.
Alors, il y a plein d'actions en fait qui existent, mais ce sont des initiatives qui sont souvent isolées, ce qui fait qu'à la fois on est très conscient du problème, mais que ça ne fait pas diminuer la quantité de pollen dans l'air.
Tout à fait. Et moi je pense qu'il faudrait imaginer, en particulier pour la région Rhône-Alpes où elle est très abondante, c'est la région où elle est la plus présente, vraiment une grande campagne menée par FR3 régionale, où pendant plusieurs jours à la file, on la montrerait, on expliquerait comment il faut l'arracher pour que les gens l'aient dans la tête, pour qu'ils la voient, pour qu'ils la reconnaissent. Et sinon, on ne peut rien faire du tout. Donc moi, j'inviterais volontiers nos amis de Rhône-Alpes, France 3, de mener une grande campagne. Nous l'avons fait, ça. Nous l'avons fait pour éliminer une plante toxique aux Antilles. C'était une plante qui était utilisée en médecine traditionnelle contre, soi-disant, les maladies du foie. En fait, c'était juste le contraire. Elle foutait le foie en l'air. Et médecins nous ont dit, c'est une plante que les gens prennent tout le temps et ils viennent à l'hôpital après. Et bien, nous avons fait, avec RFO, une grande campagne pendant 15 jours. Tous les jours, on a montré la plante et tous les jours, on a expliqué qu'il ne fallait pas la prendre. Et bien, nous avons eu un formidable retour.
Alors, l'administration qui est en charge de la santé publique, en fait, fait des colloques. Elle se contente d'informer, mais en fait, ça ne va pas tellement plus loin. Donc, il faut être un peu plus volontariste dans cette affaire. On peut saluer le travail de Stop Ambroisie, qui est une formidable association.
Oui, je la connais. Voilà. Oui, absolument. Mais il faut savoir qu'une plante invasive, c'est très puissant. Hein, c'est la nature. C'est les graines d'ambroisie ne sont pas diffusées ni par les animaux, ni par le vent. Il y a un mode de diffusion étrange, c'est qu'il y en a souvent dans les graines de tournesol qu'on donne aux oiseaux, puis elle se diffuse surtout, la graine, en étant sous les pneus et sous les semelles. C'est comme ça qu'elle se diffuse essentiellement.
Merci Jean-Marie, vous nettoyez vos semelles, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie Pelt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Patiner, patiner sur les glaces des lacs, encore gelés. Flamme du froid, envelopper, s'arrêter, s'amuser des drôles de petits nuages essoufflés, qu'essoufflés, essoufflés, on se jette au visage comme des baisers, ne plus avoir l'heure.
Là où CO2 mon amour passe, la pollution trépasse. Et allez. Après quoi, on peut rêver un peu, non?
Mais oui, on peut rêver un peu. Donc après avoir patiné sous les yeux des poissons avec Bertrand Soulier, choisi par Muriel Pérez, je vais vous laisser enfiler les vôtres, car nous allons partir au grand air.
Ah, alors là, oui. Grand cadeau que vous nous avez promis, Stéphane Serre, parce que on arrive chez vous dans ce département du Cantal, ça en est depuis un certain temps, mais on arrive sur un plateau qui s'appelle le plateau du limon. Alors déjà, c'est de la fertilité quand on parle de limon ici. Donc,
Ouais, bah justement, sur le mot lui-même, sur l'étymologie, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est sur un plateau volcanique, un ensemble qui a été constitué de plusieurs coulées de lave bien liquide les unes sur les autres et qui ont formé ce plateau et qui a été ensuite creusé d'un côté et de l'autre, donc dans la vallée de Dienne qui est à droite ici et la vallée du Clos à gauche, qui a été creusé par deux des 12 glaciers que comptait le Cantal.
D'accord. Voilà. Alors les glaciers, ils sont venus et après donc ça a raboté. Nous étions tout petits, nous avions quel âge, il y a combien de temps ça,
on était, ouais, moi j'ai des vagues souvenirs, hein, il y a 100 000 ans,
ouais, c'est ça.
Un peu plus même, et donc ils ont vraiment fini de fondre il y a un peu plus de 10 000 ans les glaciers, mais ils ont fait pas mal de rabotage, on va dire, et ils ont modifié beaucoup le paysage qu'avaient laissé les volcans de l'époque.
Deuxième chapitre de ce magazine, vous l'avez compris, je vous emmène tout là-haut, c'est le domaine de l'air, des oiseaux, de l'herbe rase. Et on va respirer dans ce pays de planèzes, de volcans, et de volcans à qui on a interdit de jouer avec les allumettes pour pas qu'ils se rallument. Nous sommes dans un des grands châteaux d'eau de la France aussi. On est face à la pyramide du Puy-Marie, au lieu touristique, dans ce très beau département du Cantal qui ne ressemble pas encore à Disneyland, tant mieux pour lui. Alors à nos pieds, très loin, des petits points bruns foncés qui jouent de la cloche. On appelle ça des vaches. Oui, mais des vaches de salaire hein, quand même. Nous avons quitté la Vigerie, là où Stéphane Serre tient son gîte Alta Terra. On en avait déjà parlé parce qu'il a une belle rénovation écologique hein, dans ce lieu. Et Stéphane, en fait, c'est un garçon qui est né dans le Cantal, une quarantaine d'années, mais il est allé se frotter à d'autres cultures, ce qui évite sans doute le resserrement, la consanguinité des idées. Et 10 ans de trekking en Patagonie, en Suède, en Finlande, au pied de l'Himalaya. Et aujourd'hui, eh bien, on grimpe sur ce plateau, désolé, mais pas du tout désolant, qui est le plateau de Limon. Il n'y a personne, sauf vous, qui aimez la nature. Ici, il faut bien imaginer que nous sommes sur un immense volcan, d'abord, une espèce de matrice originelle, peut-être l'un des plus grands volcans d'Europe, me semble-t-il.
Voilà, alors j'ai pas été mesuré, mais c'est ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on dit, que c'est le ou un des plus grands volcans d'Europe. Pour en faire le tour à la base de ce grand volcan, il faudrait faire quelque chose comme 300 km, c'est à peu près tout le département du Cantal, à peu près. Et par contre, le tour de l'ancien cratère, qui se délimite à peu près par les sommets du Cantal, qui est une chaîne en rond, donc, qui correspond à l'ancien cratère, là, on est sur une cinquantaine de kilomètres si on voulait faire le tour à pied. Voilà.
Et après, il y a eu plusieurs volcans qui sont nés.
Alors, en fait, c'est un volcanisme qui a existé pendant 13 millions d'années, à peu près, d'il y a 17 millions d'années à 3 millions d'années. Donc ouais, ça fait 14 millions d'années. Et pendant tout ce temps, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases explosives, vraiment très grosses, qui ont modifié énormément le grand cône, enfin, ou qui l'ont mis en place. Et il y a eu des phases plus calmes, plus douces, plus effusives, qui, notamment donc ce plateau du Limon là, qui ont coulé et où ça pétait moins dans tous les sens. Et c'est l'ensemble de ces phases. Quatre grandes phases qui ont été déterminées, qui constituent la complexité du massif volcanique cantalien.
Alors on a une couche de granit, bien évidemment, et sur cette couche de granit, eh bien, on a tout ce basalte.
Et d'ailleurs, dans le Cantal, il y a une zone où on le retrouve, une zone très très belle qui s'appelle l'Artense, qui est le nord du Cantal, où on a le plateau granitique qui est encore intact, et où il n'y a pas eu de volcan dessus, pas comme ici.
Si on aime les steppes, on vient ici. On voit des chevaux. Ils sont sauvages, là, ou pas ?
Alors, ces chevaux, c'est une histoire énorme, ça. Donc, on est dans une propriété privée.
Ouais.
Et ces chevaux ont été montés il y a une trentaine d'années, à peu près. Et en fait, ils n'ont pas été très suivis, on va dire. Alors, la nature a repris ses droits. Alors, évidemment, il y en a pas mal qui sont morts. Hein. Là, c'est comme ça. On est exposé au vent d'ouest. Il y en a une rigueur terrible l'hiver, avec beaucoup de froid, beaucoup de vent. Et du coup, les chevaux qui sont restés là une grosse partie de l'année, voire toute l'année.
Ouais.
Et puis, ensuite, ils se sont brassés avec d'autres. Et puis, ils se sont mélangés avec des domestiques, on va dire. Et depuis, on arrive à 200 bêtes à peu près.
D'accord.
Et on est là en présence de chevaux qui se sont retrouvés à l'état sauvage presque.
Alors, c'est marrant parce que parfois, vous avez des gens qui viennent et qui vous disent « À quoi ils servent ?» Et vous répondez à rien.
Et ça, c'est un bonheur de répondre à rien. Parce que voilà, c'est la nature, c'est beau, c'est rassurant pour moi en tout cas de savoir qu'il y a des chevaux comme ça, qui sont juste là pour la beauté.
Et ceux qui sont un peu plus bas, on va peut-être les retrouver dans notre assiette un jour.
Ça, voilà, ceux qui sont plus bas, ils vont finir à la foire de morse à l'automne.
Alors, faut aimer les nuances de couleurs, parce que là, on a à peu près tous les verts. On a aussi tous les gris qui vont se marier au bleu du ciel qui va venir, parce qu'on peut très bien avoir une averse comme des éclaircies, comme du grand soleil dans la même journée ici. Et on est absolument tout en nuances. En plus, il y a la robe blanche des chevaux qui se mêle avec les ticaos basaltiques que l'on voit, et puis les autres robes brunes. Pourquoi vous l'aimez, vous, ce lieu ici ?
Si je ne réfléchis pas comme ça, je vais dire je l'aime parce que c'est facile. C'est facile, c'est facile à comprendre, c'est simple. Et je l'aime pour la simplicité et pour le côté dénué, en fait.
Et on a ces nuages qui sont en train de galoper, là, ils vont assez vite. Hein. D'ailleurs, le vent est assez fort, là.
Alors, c'est à l'abri, mais... voilà, là, on s'est mis à l'abri du sommet du Niremont. Mais c'est un peu la caractéristique du climat de chez nous et de ces plateaux, c'est que c'est des endroits qui sont à 1600 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez haut. Et en fait, le vent il part de l'Atlantique et il arrive ici, et c'est la première barrière naturelle qu'il rencontre. Et du coup, quand il y a 100 km/h sur la côte à Bordeaux, ici il y a 30 km/h de plus, parce qu'on monte en altitude et le phénomène des compressions des filets d'air fait qu'ici on augmente la vitesse du vent. Donc c'est vraiment la dominante sur ces plateaux, et c'est pour ça que l'herbe, elle est belle, mais elle est très épaisse, mais elle n'est pas très haute, parce que en fait, la végétation souffre de ces changements thermiques brutaux et du vent qui les accompagne.
Si on se retourne, on n'a pas encore parlé du puits Marie. Et alors, qui était Marie d'ailleurs, avec un Y ?
Donc Marie, M-A-R-Y, c'est le saint qui a évangélisé au 6e siècle, je crois, le secteur, donc le Cantal.
Ouais.
Ça laisse présumer que cette montagne, avant l'arrivée de la religion catholique dans le secteur, ouais, était déjà une montagne adorée, divinisée.
Ouais.
On estime qu'il y avait un culte celte.
Stéphane a pris quelques longueurs d'avance. C'est normal, il est chez lui. Hein. Tel le bouquetin. Alors, on
fait pas, l'éclaireur.
Oui, faites l'éclaireur, absolument. Le bouquetin, je ne sais pas si on en trouve. En revanche, dites donc, on a entendu de la marmotte là.
Oui, oui, ben, dans tous ces pierriers là qui ont été gratouillés par le glacier et qui ont été déshabillés.
Oui.
Donc voilà. Ouais. Ça, c'est du basalte qui a été gratouillé par le glacier et qui est resté là en plan après la fonte. Et donc, dans les années 60, il y a des marmottes qui ont été réimplantées dans le Cantal, mais sur des sites bien précis. Et en fait, avec le temps, maintenant ça fait 50 ans,
ouais,
on s'est rendu compte que les marmottes, elles ont migré et qu'elles se sont installées tranquillement,
ouais,
à peu près sur tous les sommets du massif, là où il y a justement ces fameux pierriers de basalte. Elles se débrouillent bien avec leurs prédateurs, surtout le renard, quoi. Elles doivent être assez malines pour leur échapper.
Donc... Oui, ils jouent tous les deux. Hein. Voilà. Ce sont des animaux qui sont assez futés. Alors là, on s'est rapproché. Ah ouais, là, ils commencent à partir, nos chevaux.
Ils sont toujours un peu craintifs, même si on est vers la fin de l'été. Ils sont habitués à avoir, non pas des foules, parce qu'ici, s'il passe deux personnes dans la journée, je crois que c'est bien tout. Mais ils sont quand même sur leur garde et ils vont pas nous sauter dans les bras. Dès qu'on arrive un peu trop près, ils s'en vont. Ouais.
Distance de fuite, on est à 50 mètres.
Hein. À 50 mètres en général,
ouais.
Et puis, on arrive peut-être on approche des fois à 5 mètres si vraiment, mais si vraiment on ne fait pas de bruit,
oui,
et si on va tout doucement,
et
pas
si
de
gestes brusques. Sourd.
Et peut-être s'il est sourd.
c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a une concurrence là ? Enfin, c'est peut-être pas le bon mot là, avec nos vaches, avec nos salaires qui sont là, parce qu'il y a quand même un partage du territoire.
Non, il n'y a pas de concurrence du tout. Et même au niveau de la végétation, c'est génial. Parce qu'en général, ce que ne mangent pas les vaches, parce qu'elles sont plutôt difficiles, ces dames,
ouais,
ce que ne mangent pas les vaches, c'est les chevaux qui vont le manger. Et du coup, ça fait des prairies qui sont des pelouses. Hein.
C'est,
on pourrait mettre un golf là, presque. Hein. Et d'ailleurs, tiens, là, regarde, il y a de la bruyère à calune aussi, là, hein, qui recouvre à peu près tout le sol, enfin,
ouais,
une grosse partie du sol. Là aussi, avant, il y avait un ramassage des bergers qui habitaient dans les burons, ici, sur le plateau. Le plateau du Limon, il y avait à peu près 100 burons où on fabriquait, ouais, du fromage au début du XXe siècle. Et en fait, ils avaient des cochons, évidemment, parce que le petit lait, bah, il finissait au cochon.
Oui, ça, faut expliquer. C'est-à-dire qu'on le recyclait, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de le jeter, il servait à rien, et puis on en était embarrassé dans les bureaux, quoi. Là, ce qu'ils faisaient, bah, ils montaient des cochons avec eux, et puis après les crémages, donc après avoir fabriqué le beurre, oui. Et bah, tout ce qui restait, ils le donnaient, ils le mélangeaient avec leurs restes, et ils le donnaient aux cochons. Ça et du coup, quand ils descendaient les cochons, ils étaient gras comme tout à
c'était
l'automne.
Bon.
Et là, c'était le moment de faire les cochonailles.
Alors un peu plus bas, on a la hêtraie qui se porte bien dans ce département du Cantal. Et puis vers 1400 mètres, 1450 mètres, hop, là, ça y est, c'est fini.
C'est fini, ouais. Ben là, on retrouve à nouveau l'excuse du vent, c'est-à-dire que les hêtres, effectivement, et c'est eux qui vont être, qui vont pousser parmi les arbres les plus hauts. Oui. Mais quand on arrive à ces altitudes, donc ce qu'on appelle la zone de combat, c'est la zone où ils luttent pour arriver à vivre. On va retrouver des hêtres qui sont magnifiques, à mon avis les plus beaux, parce qu'ils poussent en ce qu'on appelle en taillis, c'est-à-dire en bouquet. Et il n'y a pas de tronc central, de gros tronc, c'est juste des petits troncs qui font une dizaine de centimètres de diamètre, qui se multiplient, peut-être 20, peut-être 30, et ils forment un bouquet de troncs de hêtres. Et souvent c'est très noueux, très torsadé, et c'est des hêtres qui sont magnifiques.
Et puis un peu plus haut, bah c'est la lande des Myrtilles où nous sommes, la voilà. Calune, donc la Calune c'est la bruyère on va dire, et puis aussi la gentiane, bon là elle est passée, parce que c'est au mois de juin, juillet qu'elle fleurit haut et fort. Qu'est-ce qu'on en fait de la gentiane? Enfin évidemment ça donne toujours cette liqueur, mais...
Alors je crois, je me rappelle plus du pourcentage exact, mais je crois que c'est quelque chose comme 2% de ce qui est ramassé dans le Cantal, ou en Auvergne en général, qui est transformé pour la boisson apéritive.
D'accord.
Donc qu'elle oui, porte un nom ou un autre. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, on a un gros négociant en gentiane qui donc a une équipe qui en ramasse, et en fait lui après le négociant il revend l'essentiel de sa récolte. Au Japon. C'est pour l'industrie pharmaceutique. D'accord. En fait. Quoi. Là-bas, apparemment, au Japon, la gentiane est très utilisée dans les médicaments. Quoi.
Oh, attendez, il saute, lui. Il saute comme un cabri. Je saute pas, faut être quand même bien chaussé. Ah bah la cheville prise. Bon alors. Mais bonjour les vaches. Bonjour. Oh oui. Oh là 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 là.
Alors là, on est le 16 août, c'est la date de première grande foire traditionnelle de vente des vaches. Et en fait, la vache qu'on entend là, elle pleure
oui.
Parce qu'on lui a pris son petit.
Et c'est ça.
Et c'est la période en fait qui est un peu triste, moi je trouve, en montagne ici. C'est la période où on commence à vendre les veaux. Bon, mais c'est comme ça que ça a toujours été presque. Ouais. Donc là, c'est la période où les vaches elles sont un
c'est
peu.
C'est le déchirement, c'est la séparation.
Voilà, la séparation.
Et après, elle va voir un psy.
On connaît tous ça hein, à un moment donné.
Mais oui. Oui, mais enfin là, ça va vite. Hein, donc.
Là, c'est il y a pas de transition.
Là, hein. C'est du jeune brouteur, hein, c'est ça en fait.
Ouais, hein. C'est ça. En fait, c'est ouais. Des veaux qui sont nés janvier, février, mars à peu près, ouais. Et ils ont été à la double alimentation. Depuis la naissance, c'est-à-dire sous la mer, donc au lait,
oui.
Et à la fois donc au foin pour commencer, et puis à l'herbe verte dans la montagne par la suite. Ce qui fait que quand ils descendent, ils sont gras, ils sont hyper costauds, ils sont musclés parce qu'ils ont marché pendant
ils ne sont pas tapés là, ici comme du soja transgénique. Hein, donc,
Ah non, ici non, la plupart. Mais je dirais même, pour aller plus loin, que moi je connais pas mal d'éleveurs dans la vallée ici. Oui. Qui pourrait demain matin avoir le label bio s'il le voulait en
oui,
fait.
C'est,
quoi.
Ça. C'est bien de rappeler qu'il y a des gens qui font du bio sans avoir forcément le label, c'est-à-dire
ouais.
Les EcoCert, les AB, parce que ça leur coûte trop cher.
Il y a de la contrainte.
Il y a de la contrainte, il y a ça
y a
aussi.
Des sous à donner en plus,
mais il y a plein de gens qui bossent aussi remarquablement sans ouais. Forcément avoir le label.
Il y en a qui sont fiers de ça et donc ouais, vraiment
sûr.
Il faut leur tirer le chapeau. Quoi.
Ouais. Bon, Stéphane est en train de discuter avec notre vache que l'on voit là tout ouais. De suite.
Elle a les mêmes cheveux frisés que moi, tu vois.
Toujours refermé
ouais.
La barrière. Hein.
Pas
non. Mais ouvrir la porte du Grand Air, c'était donc avec Stéphane Serre dans ce département du Cantal. Donc si vous allez du côté de la Vigerie, hein, si vous montez par Murat ou bien si vous descendez par Puy-Marie, vous vous arrêtez, vous le rencontrez. C'est toujours tout à fait intéressant. Ils ont réussi à éviter quand même un très joli massacre avec des éoliennes qui n'ont rien à faire là. Là, pour le coup, elles n'ont vraiment rien à faire là. C'est comme dans les monts de l'Ardèche, comme dans le Haut-Languedoc. Il y a des endroits, surtout pas. Et ils ont développé des réseaux de chaleur avec du frêne, avec des bocages tout à fait intéressants, entre autres avec Bernard Delcros qui s'est bien occupé de ça. Et ça marche pas mal du tout. Donc merci à lui. Et dans quelques instants, troisième volet de cette émission, ça va être l'actualité. Elle va bientôt être là, Nathalie Fontrelle. Ouais.
Mon amour, Denis Chessou.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Like to say to you, but I don't know how.
Joli classique Oasis de 1995, Wonderwall, autrement dit le mur merveilleux dans lequel peut-être notre belle civilisation est en train d'aller. Voilà, troisième volet de cette belle émission, elle est là, c'est parti.
Les oiseaux dans la charmille.
C'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Qui ne peut commencer que par ce merveilleux jingle. Merci encore, cher François Morel. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Donc vous l'avez compris, l'actualité de l'environnement. Et donc après le Cantal et cette merveilleuse balade, on commence par la fête de la nature, Nathalie, qui prend fin demain, alors il faut en profiter.
Oui, alors avec cette année le slogan « L'insolite près de chez vous ». En clair, c'est pas la peine d'aller dans la forêt tropicale pour découvrir des choses absolument merveilleuses.
Alors vous nous emmenez pour une toute petite balade au but de Chaumont, nous sommes à Paris.
Et oui, et vous faites 3,5 pas et vous envoyez des choses avec Mathieu de Flores.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous distribuer un petit peu de matériel d'abord. Parce que comme ça, vous pourrez participer vous aussi, vous pourrez essayer d'attraper les petites bébêtes, parce que ce qui est important, c'est aussi que vous vous penchiez, que vous essayiez de découvrir que l'insolite il est à notre porte. Donc si vous voulez prendre déjà des petits tubes, donc chacun un petit tube, n'ayez pas peur. Qui en veut? Alors ça vous fait penser à quoi? C'est quoi comme bébête? Ouais, c'est un bourdon. Et donc vous voyez, celui-ci il est très 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 velu, et donc c'est un gros avantage pour lui. Les bourdons, c'est les premiers qui se lèvent le matin quand il fait encore frais, et c'est les derniers à se coucher tard le soir chez les pollinisateurs. Vraiment, lui, même à 8 degrés, vous le voyez, il butine. Alors que l'abeille domestique, pendant ce temps, elle reste bien tranquillement au chaud, à l'abri, parce que non, il fait vraiment trop froid dehors. Alors lui, c'est vraiment très très efficace. Voilà, il a sa petite laine sur lui. En plus, toutes ces soies, on parle pas de poils chez les insectes, on parle de soies, mais toutes ces soies, elles sont très pratiques pour accumuler le pollen. Donc il se couvre de pollen quand il va sur les fleurs, et là sur la fleur d'après, évidemment il va déposer beaucoup de pollen. Donc c'est les bourdons, ils ont des pattes postérieures qui sont très élargies. Je sais pas si vous voyez, ça forme une petite corbeille, et donc on les voit souvent avec une pelote de pollen sur le bout de la patte, parce qu'en fait ils accumulent le pollen dans leur corbeille sur le bout de la patte, et donc après le pollen servira à nourrir les larves. Donc voilà.
Histoire naturelle en plein air avec vous.
Oui, alors ce qui était à la fois rigolo et consternant dans cette balade, c'était de constater que le nid d'une poule d'eau était construit avec un sachet de chips. Voilà, comme quoi les bestioles arrivent à recycler même nos défauts, cette manie de jeter les déchets par terre, alors que, détrompez-moi, il y a des poubelles dans les villes.
Oui, il paraît, mais si vous voulez, en France, on les utilise très très peu parce qu'on ne veut pas user nos poubelles. En gros, c'est ça. Alors, cette fête, donc, a un mot d'ordre, cette fête de la nature. Découvrez ce que vous avez, mais attention, sous le nez.
Oui, François Le Tourneux est président de cette 5e édition de la fête de la nature.
Les points forts de la fête de la nature cette année, ça sera, je pense, la nature de tous les jours, celle qui est à côté de chez nous, celle qu'on peut voir sur son balcon, dans son jardin, qui peut être tout à fait spectaculaire alors qu'on ne le soupçonne pas. Donc on va rester sur l'idée qu'on va s'occuper d'abord des gens les plus privés de nature, les personnes handicapées pour lesquelles il y aura beaucoup de sorties adaptées, les détenus pour lesquels on va multiplier les manifestations, et puis on voudrait aussi que tout le monde puisse trouver une manifestation près de chez lui. Donc il y a une application pour iPhone et un site internet très développé qui permettra à tout un chacun de savoir à côté de chez lui ce qui va se passer.
Vous dites que c'est pas facile de défendre la cause de la biodiversité parce que c'est un peu anxiogène.
Les deux façons d'en parler sont indispensables. Bien sûr, il faut être conscient que les choses vont pas bien. Mais le catastrophisme, ça ne conduit pas à l'action. Ça conduit à la prise de conscience, mais ça ne conduit pas à l'action. Or, l'action est efficace. Depuis que dans une ville comme Paris, on a arrêté complètement les traitements chimiques et les pesticides dans les espaces verts, on voit revenir la nature de façon spectaculaire. Et chacun d'entre nous peut y contribuer très facilement. Nous avons envie que ça devienne la Nature Pride et que les gens qui font de la nature près de chez eux puissent en être fiers et pour une fois inviter leurs voisins et leurs amis à boire un verre et à découvrir qu'on peut faire nicher des mésanges dans son jardin, même quand on a des chats carnassiers.
Oui, oui.
Ben oui, ça arrive. Moi j'en connais. Enfin, on a oui. peut-être le même d'ailleurs.
Oui, oui. voilà. Alors, vous pouvez retrouver le programme de la fête de la nature oui. sur Internet, évidemment. Fête de la nature sans accent et toutattaché.com.
Vous savez, ça me rappelle, moi j'ai eu cette chance inouïe, ça fait les anciens combattants, mais j'étais tout petit garçon et j'avais eu la chance de rencontrer Jean Giono, donc sur le Mont-Dor à Manos, qui disait l'aventure commence au bord du talus. Autrement dit, c'est vraiment près de chez vous et sous
oui.
les yeux. Et
oui.
c'était exactement ça. Ah, tenez, écoutez.
Tu as un boudoir plein de Bouddha, les bougies dansent dans leur bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de ta fata. C'est rempli de photos de toi qui sommeillent devant la glace. Tu as un boudoir plein de Bouddha, et moi, je viens pour le gaz.
Jacques Brel, le gaz.
Mais je la connaissais pas du tout, cette chanson.
Alors c'est pas la plus connue celle de Brel, mais c'est parfait parce que ça sent toujours le gaz. Et on revient avec vous, Nathalie, sur les débats de l'Assemblée nationale qui a adopté la proposition de loi sur les gaz et l'huile de schiste, alors que les opposants restent quand même très mobilisés.
Oui, alors vous savez que le texte sera débattu au Sénat le 1er juin. Il n'abroge pas les permis d'exploration comme c'était le cas à l'origine, mais il interdit la technique de fracturation hydraulique. Ce revirement serait en fait une parade pour éviter les contentieux juridiques, pour épargner aux finances publiques de coûteux procès, nous dit-on, et des indemnisations à verser aux industriels. Et pour le député UMP Serge Grouard, c'est la bonne solution.
Les choses sont parfaitement claires et simples dans ce texte qui pose l'interdiction, l'abrogation, la transparence, et j'en termine, qui nous permet également de ne pas rester totalement ignorants au travers de l'article 3 et des dispositions permettant une recherche strictement encadrée. Qui peut dire aujourd'hui qu'il est contre une recherche strictement encadrée? Voilà, il y aura à l'issue de nos débats, mes chers collègues, une chose simple. Notre vote, ceux qui veulent donner un feu rouge à l'exploration et à l'exploitation de ces gaz et qui voteront ce texte qui permet cette interdiction, et ceux qui ne voteront pas ce texte et qui donneront un feu vert à la poursuite de l'exploration et de l'exploitation. Je vous remercie.
Voilà, donc ça veut dire on vous entend avant des élections importantes, mais on ne ferme pas la porte.
Non, on ferme pas la porte. Alors on frise un peu la schizophrénie quand même. Hein. Comment envisager d'exploiter ces ressources fossiles un jour alors que on s'est engagé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Et il y en a un qui a bien mis le doigt sur ce problème, c'est le député communiste André Chassaigne.
Pour satisfaire à nos engagements climatiques, sociaux, environnementaux, le recours aux énergies fossiles comme les gaz et huiles de schiste n'apportent pas de solution, c'est au contraire un problème supplémentaire qui influence la poursuite d'une économie carbonée. Certains argueront que notre pays est structurellement dépendant des énergies fossiles, et en particulier au pétrole et au gaz, mais cela justifie-t-il de prôner une politique de courte vue en recourant à ces mêmes ressources par simple effet de substitution aux importations plutôt que de définir notre avenir énergétique? Personne ne peut ignorer que le choix de s'engager avec frénésie dans l'exploitation déraisonnable de ces ressources non conventionnelles, fait par les États-Unis et par d'autres pays, y compris européens bientôt, apparaît totalement contradictoire avec les enjeux qui se posent à l'humanité.
On dirait vraiment un écologiste, notre député du Puy-de-Dôme.
Je garantis, c'est un député communiste.
Voilà, donc lui, il se dit, on peut peut-être se chauffer au volcan. C'est autre chose. Bon, en tout cas, Nathalie, cette loi sera le premier étage de la fusée.
Oui, car la ministre de l'écologie a promis une réforme du code minier. Vous savez qu'il date du 19e siècle, à une époque où la consultation des populations pour creuser le sous-sol, c'était pas vraiment la mode, évidemment. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, l'ex-ministre de l'écologie, qui était en poste lorsque les permis d'exploration ont été délivrés, Jean-Louis Borloo a expliqué comment on a pu en arriver là.
En 1994, sur des recommandations du Conseil d'État, les procédures en matière de recherche ont été allégées par le législateur. L'idée était assez simple, puisque nous avons des procédures d'exploitation encadrées, nous devions alléger, vous deviez alléger les procédures de recherche, ce qui a été fait notamment par la disparition de l'article 9 qui prévoyait les enquêtes publiques en matière de recherche. Et dès l'époque, et depuis lors d'ailleurs, il a toujours été donné délégation au service pour instruire ces permis de simple recherche. Et si je vous le dis, ce n'est pas en matière d'exonération quelconque de responsabilité politique, car les ministres en charge sont responsables de leur administration, mais c'est pour qu'on en tire les conséquences objectives pour que ceci ne se reproduise pas.
Le feuilleton n'est donc pas terminé, Nathalie. Ah, écoutez, ça nous fait du bien. C'est quand même, c'est de l'eau qui tombe du ciel. Là, un petit coin de paradis contre un point de parapluie. Venez vous abriter. Alors, des étés qui débutent en avril, on va en vivre beaucoup dans les années qui viennent. Donc, d'après les prévisions des climatologues spécialistes du changement climatique.
Oui, la France est toujours au régime sec et ça ne devrait pas s'arranger. D'après Météo France, qui élabore des prévisions saisonnières, écoutez Isabelle Charron.
La prévision saisonnière, ça consiste à prévoir un mois à l'avance ce qui va se passer sur les trois mois suivants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme une prévision classique. On va pas en prévision saisonnière, par exemple aujourd'hui, vous prévoir s'il y aura des orages au 14 juillet. Donc, ça consiste à faire une prévision sur l'état moyen de l'atmosphère pour ces trois mois suivants. Alors, pour ce faire, on utilise des modèles numériques qui nous donnent des cartes de prévision de température, précipitation, moyennées sur trois mois. Alors, pour cet été, donc là, nous avons produit une prévision pour le trimestre mai, juin, juillet, plutôt plus chaud que la normale. Et par contre, pour les précipitations, il n'y a pas de scénario. Il faut savoir que ce sont des prévisions probabilistes qui vont vous donner une tendance. Et pour les précipitations, aucune tendance ne se dégage.
Ces dernières années, est-ce que vous avez eu souvent raison? Est-ce que les prévisions saisonnières ont eu souvent raison?
Je vais vous donner un exemple. C'était l'hiver dernier. Donc en novembre, nous avons établi notre prévision pour l'hiver. Donc c'était pour décembre, janvier, février. Et à ce moment-là, nous avons fait une prévision de dire que la température serait probablement inférieure à la normale et les précipitations moins abondantes. En gros, un climat plutôt froid et sec. Et nous avons eu raison.
Bon, en tout cas, on aimerait que les prévisions aient tort cette fois-ci parce que la Terre a réellement besoin d'eau.
Oui, plus de la moitié des nappes phréatiques sont en dessous de la normale et il faudra du temps, beaucoup de précipitations pour les remplir à nouveau. D'après Ariane Blum, hydrologue au BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière.
Non, on ne va pas rattraper des niveaux normaux s'il se met à pleuvoir là, pendant toute la saison. Les pluies pourraient avoir comme bénéfice de limiter les usages et donc par conséquence les prélèvements en nappes quand les nappes sont utilisées. Mais par rapport au déficit qu'on observe sur le centre du bassin parisien et qui résulte de déficits pluviométriques pendant l'hiver depuis plusieurs années déjà, 5 ans, les prochaines pluies ne vont pas suffire à recharger les nappes. Il va nous falloir 2-3 ans de pluie, notamment pendant l'hiver, pour pouvoir retrouver des niveaux normaux. Les nappes sont utilisées pour la production d'eau potable, elles sont utilisées parfois pour l'irrigation aussi, et puis pour l'industrie. Et elles ont une autre fonction qui est importante, qui est de soutenir les cours d'eau. Donc elles vont apporter déjà le débit minimum pendant l'été pour que la vie aquatique puisse s'épanouir normalement dans le cours d'eau. Elles vont aussi apporter une eau fraîche, oxygénée, qui contribue au maintien de la vie écologique dans ces cours d'eau. Donc c'est vrai qu'au cas par cas, les niveaux qu'on observe aujourd'hui nécessitent une vigilance et une adaptation des prélèvements et une répartition entre les différents usages de manière à ce que tout le monde soit satisfait et que la vie écologique dans le cours d'eau soit maintenue.
Alors on craint aussi pour les centrales nucléaires parce qu'elles ont besoin de se refroidir. On en a quand même les deux tiers qui sont au bord des rivières. Et puis cet été, on craint également les risques de pollution.
Oui, les cours d'eau, vous le savez, servent de déversoir aux rejets industriels et aux eaux d'épuration. Alors même si elles sont débarrassées de l'essentiel des contaminants, elles ne vont pas être diluées correctement puisqu'il y a moins d'eau. Ah oui. Et puis on risque également des mortalités de poissons puisque, on l'a évoqué à l'instant, le taux d'oxygène dans l'eau est au plus bas.
Là-bas, c'est joyeux tout ça. Et les plages, qu'est-ce que ça donne les plages?
Un peu d'algues vertes.
Ah, j'adore la salade.
Vous savez que la saison a déjà commencé sur certaines plages bretonnes qui n'auront peut-être pas le pavillon bleu.
Bien sûr, le drapeau européen, donc symbole des plages respectueuses de l'environnement, qui va être distribué vendredi prochain.
Il ne garantit pas seulement la qualité des eaux de baignade, vous le savez, mais aussi les actions de sensibilisation à la protection de la nature, également le tri des déchets. Mais est-ce que c'est un critère de choix pour les vacanciers? Réponse de Thomas Joly, le directeur pour la France des pavillons bleus.
Alors ça, c'est absolument certain.
Les Français, les Européens, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, placent la qualité environnementale parmi les deux premières préoccupations de leur choix de destination de vacances. Le pavillon bleu, après pas loin de 30 ans d'existence, a une notoriété qui est forte et un sondage encore récent que nous avons réalisé montre que 75% des Français connaissent la signification du pavillon bleu sans aucune assistance de notoriété et parmi ceux là, il y en a 78% qui se déclarent être influencés pour leur choix de vacances à travers ce label. Donc cela montre bien que le pavillon bleu est un signal qui indique très clairement les endroits, les territoires où il fait bon vivre, où l'environnement est respecté et qui va permettre une adéquation entre ses attentes en tant que consommateur et un territoire respectueux de l'environnement.
Que se passe-t-il en cas de pollution accidentelle d'une plage ?
Alors, les choses sont très claires, c'est un contrat. En cas de pollution ponctuelle, le pavillon bleu doit être immédiatement abaissé. Nous demandons systématiquement à ce que la communication des relevés de la qualité des eaux de baignade nous soit communiquée, de façon à pouvoir surveiller les choses. Et vous savez que nous avons des auditeurs qui passent pendant tout l'été sur tous les labellisés pavillon bleu et qui vérifient que nos critères sont bien respectés et qui peuvent aussi donc vérifier qu'il n'y a pas eu d'accident. Et s'il y en a un, à ce moment-là, le pavillon bleu doit être absolument abaissé pour ne tromper personne.
En fait, Nathalie, il risque fortement d'y en avoir cette année.
Ah, des pollutions, oui, parce que là, en ce moment, comme il ne pleut pas, la pollution, tous les polluants, les hydrocarbures, etc., s'accumulent sur le bitume, les trottoirs, les bâtiments, etc. Oui. Donc ça commence à faire une couche assez importante. Et avec une pluie d'orage, tout ça va partir à la mer.
Alors, je vais vous dire, avec le réchauffement climatique, vous verrez que plus tard, bien plus tard, les vacances d'hiver seront au bord de la mer et les vacances d'été se feront à la montagne. Ben oui, on aura besoin de se rafraîchir, c'est comme ça. Merci, chère Nathalie. Et puis, débrouillez-vous avec votre chat et vos oiseaux. Voilà.
À bientôt.
Au revoir. C'est très agréable, ça. C'était Kitty Daisy et Lewis, I am so sorry, une nouveauté France Inter. Il est l'heure de se quitter, vous avez bien compris, c'est la fin de CO2 Mon Amour. Merci à Élise, Christophe et Florent Layani à la technique, à Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza et Fabrice Lègle qui réalisait cette émission. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, oh bon, on aura un petit coup de parabène. Bon, vous voyez que Jean-Marie Pelt, et puis on vous parlera aussi de, d'étrangers. On ira en Chine, on ira aux USA, nous irons du côté des Maldives, donc un CO2 Mon Amour complètement ouvert sur l'étranger. Possibilité pour vous de réécouter cette émission pendant 4 semaines et de l'enregistrer pendant une semaine seulement. Demain, ce sera Cannes. Donc, il n'y aura pas de la tulie, mon petit loup, demain, mais ce sera donc le festival de Cannes. Et je vous retrouverai donc avec plaisir la semaine prochaine à 14h. Dans quelques instants, ce seront les liaisons heureuses avec Colombe Schneck.